l'Agora des savoirs. Des conférences ouvertes à tous.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
Que voulez-vous, madame ? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Mercredi 5 février 2025 à 19h en direct du centre Rabelais de Montpellier, Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain, une conférence proposée par Charles Stepanov. Comment nous relions-nous à notre environnement et comment nous en détachons-nous ? Comment en sommes-nous arrivés à vivre dans des sociétés dont les rapports au milieu vivant se sont appauvris au point de menacer notre monde de devenir inhabitable ? Charles Stepanov est anthropologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Il vous propose cette nouvelle conférence de l'Agora des savoirs.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Agora des savoirs. Je suis Anaïs Vaillant, je représente le bistrot des ethnologues de Montpellier et nous sommes très très heureux d'accueillir Charles Stepanov ce soir et de voir une salle si comble. Le bistrot des ethnologues voudrait remercier l'Agora des savoirs, voudrait remercier la ville de Montpellier, la DRAC, l'association Contact. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a Radio Divergence qui enregistre cette conférence, qui sera rediffusée donc sur les ondes, également sur Radio Escapade et sur le site du bistrot des ethnologues. Bien sûr, vous pouvez trouver toutes nos rencontres. On peut aussi trouver la librairie Le Grain des mots à l'extérieur, avec les livres de Charles Stepanov. Et vous avez aussi donc Dezel, les interprètes en LSF. Voilà, Iris et Christelle qui vont se relayer. Alors, nous accueillons Charles Stepanov ce soir pour parler de son dernier ouvrage « Attachement », enquête sur nos liens au-delà de l'humain, donc paru il y a quelques mois à la découverte. Nous vous proposons une discussion de, on va dire, environ 45 minutes avec Charles, et puis ensuite, il y aura des questions possibles de votre part. Voilà. Avec notre intervenant. Alors Charles Stepanov, bienvenue donc.
Merci beaucoup, toutes mes excuses pour mon retard et merci d'avoir patienté jusqu'à maintenant.
Donc vous êtes anthropologue, ce n'est pas un secret, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale, ethnologue spécialiste de la Sibérie. Vous avez travaillé sur le chamanisme, sur les relations que les groupes humains entretiennent au-delà de l'humain avec l'invisible. Vous avez publié « Voyage dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination ». Des relations aussi que les humains entretiennent avec les animaux. Vous avez publié « L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage ». Vous avez également donc effectué des terrains de recherche donc, auprès des chasseurs en France. Donc, ce soir, nous parlons de cet ouvrage « Attachement » qui traite principalement des phénomènes de domestication. Donc on va parler de ça ce soir, domestication des plantes, des animaux. Vous remettez en question un modèle explicatif dominant des relations entre les humains et leur environnement et des organisations sociales en général. C'est un livre foisonnant avec une ethnographie vraiment plurielle et aussi multidisciplinaire. On y reviendra, mais il y a de la philosophie. Bien sûr, de l'anthropologie, de l'histoire, de la préhistoire, de l'archéologie, de la botanique, de l'écologie, de l'agronomie, de la génétique, de l'éthologie, de la science politique. Et vous déconstruisez donc, par rapport donc, à ces phénomènes de domestication, les oppositions très convenues entre ce qu'on appelle le domestique et le sauvage, entre le sauvage et le civilisé, entre par exemple cette idée des chasseurs-cueilleurs égalitaires et d'agriculteurs, domesticateurs et dominateurs. Nous allons rentrer là ce soir dans votre théorie des attachements, d'attachements polymorphes, qui est selon vous donc un principe fondateur des cultures humaines. Et nous allons parler aussi de détachement, du coup, qui serait à l'origine d'un déclin des savoirs écologiques. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander comment vous êtes devenu anthropologue en venant de la philosophie. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est la Sibérie qui vous a fait devenir anthropologue ou l'inverse, l'anthropologie qui vous a emmené en Sibérie déjà? Et pourquoi, quand on décide de travailler sur les sciences humaines, on s'intéresse à ce qui est au-delà de l'humain?
Oui, alors c'est un peu les deux, à vrai dire. J'ai commencé effectivement en philosophie. Je pense que tout le monde voit ce que c'est, des réflexions sur des auteurs un peu spéculatives. Et je m'intéressais aux usages du langage chez les humains, au langage poétique, comment on agit à travers des actes de parole. Et finalement, j'en suis venu à la question de comment parfois les humains essayent de transformer le monde à travers des paroles, donc à travers des paroles magiques, des actes rituels, des paroles performatives. Et j'ai rapidement compris que par la réflexion personnelle en cabinet ou en bibliothèque, je n'obtiendrai pas de réponse satisfaisante et que je ferais mieux de m'ouvrir au monde, de partir, d'aller rencontrer des sociétés humaines qui m'apporteraient des réponses originales que moi j'aurais jamais seul imaginé. Donc c'est ça la démarche anthropologique. Elle a beaucoup de questionnements communs avec la philosophie, mais dans sa méthode, elle a ce site particulier qu'elle se fonde sur l'enquête de terrain, l'enquête immersive, c'est-à-dire que nous allons partir assez loin souvent, mais ça peut être proche, pas nécessairement sur un autre continent, pour vivre dans un mode de vie différent d'une autre. Ça va impliquer d'apprendre une langue qui n'est pas la nôtre, hein, si on est dans une région étrangère, et d'apprendre pas seulement une langue, en fait, toutes sortes de pratiques, des gestes, des protocoles, des interdits, des façons de faire, de marcher, de s'asseoir, qui sont différentes. Donc c'est une expérience qu'on vit dans notre corps. L'enquête de terrain, on réapprend, on redevient un petit enfant, hein. On apprend à parler, on apprend à bien se tenir, on apprend, on fait plein de gaffes, et c'est en faisant ces gaffes, en suscitant les sarcasmes, hein, un peu de l'entourage, et bien que on va en fait comprendre des règles qui sont différentes des nôtres. Donc dans mon cas, ça a été ce souhait de faire de l'enquête de terrain, alors sur des pratiques rituelles, donc qui m'amenait à m'intéresser au chamanisme. Et puis il s'est trouvé que j'ai passé un an comme enseignant de littérature française en Russie, à Saint-Pétersbourg. Je parlais pas le russe, donc je l'ai appris sur place. Et parmi mes étudiants, il y avait des personnes, des jeunes garçons et des jeunes femmes qui venaient de Sibérie, qui appartenaient au peuple des Touvas, qui pratiquaient dans cet internat d'architecture soviétique effrayant, qui pratiquaient des rituels de fumigation avec du genévrier qu'ils avaient apporté de Sibérie. Et ils m'ont montré des photos, ils m'ont parlé, ils m'ont dit si tu veux y aller, prends un billet de train de Transsibérien. Et c'est ce que j'ai fait, j'avais des contacts, et voilà comment je me suis retrouvé en Sibérie, et finalement ça m'a plu, et j'ai fait de ce groupe et ce mode de vie, les Touvas, ma spécialité en consacrant ma thèse en 4 ans.
Alors ça m'amène à rentrer donc dans l'ouvrage qui est donc composé de plusieurs parties, de trois parties. La première s'appelle « S'attacher », et justement vous parlez de communication dans cette première partie, de communication rituelle et de langage interespèce. Alors vous rappelez que les humains sont polyglottes, mais pas au sens de seulement de parler plusieurs langues étrangères, mais polyglottes interespèces. Vous parlez même de musique des attachements, c'est-à-dire donc il y a la communication rituelle, mais il y a aussi des formes de communication avec les animaux qui sont très qu'on remarquerait même pas, qu'on soupçonnerait pas d'être une forme de polyglossie, et on pourrait même imaginer que la musique ferait partie donc de la musique en général, viendrait de là peut-être.
Oui, c'est ce qui est frappant quand on fait donc l'ethnographie et qu'on va comparer ce que nous, on a observé sur un terrain, moi en l'occurrence chez les Touva, avec des ethnographies menées par des collègues qui travaillent en Amazonie, en Australie, en Afrique et ailleurs. Et finalement, il est frappant de constater que le langage, ce n'est pas le seul mode de communication des humains. Il y en a beaucoup d'autres. Parce que les humains ne s'adressent pas pour communiquer uniquement à des adultes maîtrisant le langage, mais aussi à des plantes, à des animaux, à des êtres du paysage, à des bébés aussi, peut-être on en reparlera après, mais notre communication au sein de notre espèce voilà, ne peut pas se réduire au langage, puisqu'il y a des êtres non langagiers parmi les humains, qui sont en particulier les bébés. Donc, avec les animaux, il y a des... Alors, je me suis intéressé au cas des appels, les huchements, on appelle ça, qui sont des cris, des sifflements, des mélodies aussi. Ça peut être de la musique. En Europe de l'Est, il y a des flûtes particulières chez les bergers bulgares, par lesquelles le berger communique avec sa brebis préférée au sein du troupeau, qui est une brebis qui a été apprivoisée, biberonnée quand elle était petite, et qui devient un animal meneur au sein du troupeau. Donc la communication avec le troupeau passe en fait par une mélodie particulière que la brebis reconnaît, elle ne va pas se tromper, elle ne va pas venir à l'appel d'un autre berger, et avec son attachement donc envers le berger, elle va se rapprocher de lui et emmener avec lui tout le troupeau. Donc c'est la musique ici est une médiation absolument essentielle pour comprendre le pastoralisme. Je donne un exemple bulgare, mais en fait c'est absolument universel. Le pastoralisme est une source de musique à travers le monde. On peut penser aux chants tyroliens qui sont bien connus, qui sont des adresses aux troupeaux loin dans les Alpes pour les réunir, les appeler, les rassurer quelquefois. Il y a des mélodies huchées chez les peuples d'Asie centrale et d'Asie septentrionale, étudiées par un collègue Frédéric Léotard, qui a montré qu'il existe des modèles, des types musicaux particuliers à ces mélodies adressées aux animaux d'élevage, aux brebis, aux vaches, qui sont communs à travers l'Asie centrale chez de nombreux peuples de langue, des Kirghizes jusqu'au Touva, chez qui j'ai travaillé, de Sibérie du Sud. Donc on a ici une culture musicale partagée sur des milliers de kilomètres par de nombreux peuples séparés depuis par une histoire, des histoires extrêmement variées, et qui, à chaque fois, ces répertoires musicaux permettent aux humains, aux pasteurs, de communiquer avec leurs troupeaux. Alors ça peut paraître étonnant, mais j'ai une collègue australienne qui a travaillé en Mongolie et qui a fait un recensement des chants et des appels adressés par les bergers mongols à leurs troupeaux et qui a pu observer que déjà ils sont très très nombreux pour différentes espèces, différents appels avec différentes significations. Et les animaux y répondent très largement positivement, c'est-à-dire que ça marche, ils comprennent, ils réagissent correctement quand on leur dit en avant ou en arrière, mais pas dans le langage humain, mais avec des sifflements, des appels particuliers. Donc pour entretenir ces relations avec les troupeaux, avec les chevaux, avec les chiens également, les humains ont inventé un répertoire sonore extraordinaire qui fait partie en fait des écologies de nos attachements au-delà de l'humain. Et voilà, c'est ça qui m'a intéressé en élargissant, en prenant différents exemples et en m'intéressant à ce qui va au-delà même de l'animal. Finalement, c'est pourquoi les humains ont eu cette nécessité de créer des codes différents du langage pour communiquer avec des brebis et des vaches, tout simplement parce que, évidemment, brebis et vaches ne comprendraient pas si on leur parlait en langage humain avec de la syntaxe. Donc il a fallu faire preuve d'innovation communicationnelle avec ces êtres non humains, différents de nous. Et finalement, il y a des traits communs avec la communication rituelle. Ce qui m'est apparu par la comparaison, c'est que à l'intérieur même des appels aux animaux, il y a des évocations des esprits ou des divinités. Il y a des aspects musicaux qui sont communs aux appels aux animaux et aux appels aux esprits et aux divinités. Finalement, pourquoi ? Parce que c'est les mêmes enjeux, c'est le même problème. Comment arriver à communiquer avec des êtres avec lesquels nous ne pouvons pas entrer en discussion ? On ne peut pas discuter en face à face avec une divinité ou avec un esprit. Donc on est dans une problématique commune et avec des innovations, des inventions assez semblables de la part des humains qui vont mobiliser plusieurs sens, le contact, la musique, donc nos capacités paralinguistiques, tout ce qu'on exprime par les émotions en utilisant nos vocalisations et qui ne passe pas par la sémantique. Finalement, c'est quelque chose que saint Augustin observait déjà dans l'Antiquité. Il remarque que certains chants liturgiques, les Alléluia, sont des vocalises, avec des voyelles très longuement répétées sur différentes hauteurs, hein, c'est le chant grégorien ou les chants liturgiques orthodoxes ou même dans d'autres religions. Et il remarquait que ça ressemble au chant des paysans dans les champs de travail. Il faisait cette observation qui est très juste et qui est confirmée par des spécialistes d'ethnomusicologie actuellement. Donc, parce qu'il s'agit de s'adresser au-delà du langage, à des êtres très différents de nous. Donc les humains ont créé, on peut dire, des formes de code de communication semblables pour s'adresser à leur bœuf dans les chants de labour et à leur dieu dans le chant liturgique.
Et donc les bébés dans tout ça, c'est... Voilà, il y a ce lien aussi, cet attachement, et un langage donc vraiment spécifique aussi que les humains ont avec leurs petits.
Voilà, alors j'ai continué la comparaison, après être passé de la communication avec les animaux qu'on a évoqué, communication avec les divinités, il y a aussi un domaine énorme et fondamental où les humains dépassent largement les limites du langage, c'est la communication avec leur propre bébé. Même problème, hein, les bébés, bien qu'ils soient quand même beaucoup plus matériels et concrets que les esprits, eh bien, on ne peut pas se contenter de communiquer avec eux par le langage. Donc là, il est nécessaire de faire preuve d'innovation, donc de faire preuve d'utiliser des canaux multisensoriels, donc évidemment, communication tactile, olfactive avec les bébés. C'est très important, gustative, avec l'échange de substances, le lait. Et puis, des études comparatives récentes en psychologie, avec des études acoustiques, ont montré que dans les utilisations de la parole, des vocalisations chez les humains s'adressant à leur bébé, il y a des traits communs à travers toutes les cultures. Partout, les humains, quand ils s'adressent à des bébés, ils modifient leur voix. Et vous pouvez l'observer sur vous-même, face à un bébé, vous allez remarquer de façon quasi involontaire, on se met à avoir une voix plus aiguë. On simplifie la grammaire, évidemment. On a une voix plus émotionnelle, on marque beaucoup plus d'émotions, c'est très frappant. En fait, c'est tellement frappant qu'on a fait écouter des enregistrements de voix d'adultes parlant à des bébés, à des personnes d'autres langues, d'autres cultures, et en majorité, les gens ont été capables d'identifier et de dire ça, cette personne, elle s'adresse à un bébé, et dans d'autres cas, à un adulte. Donc c'est un test qui a été mené. Même chose pour les berceuses. Les berceuses ont des propriétés acoustiques particulières qui les distinguent des autres formes de mélodie, des autres formes de chant, de façon universelle. Ça, c'est extrêmement frappant, c'est des études récentes qui le montrent avec des milliers d'enregistrements, donc c'est assez robuste comme étude. Ça nous dit que les humains ont développé, à côté du langage, des formes de communication vraiment dédiées à l'adresse au bébé. Et en fait, on n'est pas les seuls, il y a d'autres mammifères qui ont développé ces formes de communication, c'est bien compréhensible. Parce que c'est lié souvent au partage de l'éducation. Quand il y a chez d'autres espèces de singes, comme les ouistitis, finalement on est plus proche des ouistitis que des chimpanzés sur ce plan-là, hein, même si phylogénétiquement on est beaucoup plus éloigné, c'est les singes du Nouveau Monde, les ouistitis d'Amérique, eh bien ils ont des formes de reproduction, d'organisation de l'éducation des bébés plus proches des nôtres que les chimpanzés. c'est-à-dire qu'ils pratiquent l'éducation partagée. Alors que chez les chimpanzés, le bébé grandit en contact de sa mère pendant plusieurs années et de façon exclusive, avec aucun partage, les humains se distinguent par une éducation partagée. La mère accepte partager le soin avec d'autres personnes chez toutes les sociétés humaines, et c'est même totalement indispensable. En fait, les bébés humains sont dans un tel état de dépendance et d'immaturité à la naissance qu'ils demandent un effort énergétique énorme qu'une femme seule ne pourrait pas assumer. C'est pour ça que nous éduquons collectivement les bébés chez les chasseurs-cueilleurs, avec de nombreuses personnes dans la moitié du temps qui s'occupent du bébé, et puis dans les sociétés industrielles avec les crèches, l'école, etc. Et ça a des implications sur le plan de la communication. Chez les chimpanzés, il n'y a pas de mode de communication particulier avec les bébés. Par contre, chez les humains, oui, il y a ces études qui le montrent, et chez les marmousets également, c'est-à-dire marmousets et ouistiti. Chez les ouistiti, donc, on a un code de communication différent avec les bébés. C'est lié au caractère coopératif de notre éducation des bébés. Donc nous avons ces dispositions, nous humains, à prendre soin d'autres bébés que les nôtres. Et on a développé une façon de communiquer avec eux pour les mettre en confiance, même si on n'est pas leur mère ou leur père. Et ça, c'est très important, parce que ça nous a ouvert. Ça nous a ouvert à énormément de choses autour de nous. Ça a facilité nos capacités à adopter, à prendre soin de petits êtres bizarres, parce que les bébés sont très bizarres, même si, évidemment, on en perd un peu conscience quand on doit s'en occuper. Mais si on réfléchit, les grandes définitions de l'humanité, c'est un être qui possède le langage, un être politique, un être qui a des conventions, un mammifère qui se tient sur deux pattes, la station debout, la consommation de nourriture cuite, donc la maîtrise du feu. Tous ces critères, les bébés ne l'ont pas. Et pendant de nombreuses années, en fait, pour certains de ces critères, comme la cuisson de la nourriture, voilà, jusqu'à 15 ans, même plus, les enfants sont pas capables de se nourrir eux-mêmes, voilà, les adolescents, chacun peut en faire l'expérience, et de plus en plus tard, en plus, voilà, c'est totalement différent des autres espèces de mammifères, des moutons, par exemple, j'ai des moutons chez moi, bon, ben, l'agneau, en quelques jours, enfin, quelques minutes, on est dans une région pastorale ici, donc vous le savez sans doute, en quelques minutes, l'agneau, après la naissance, il marche, il va courir, et puis il commence à brouter un petit peu d'herbe en quelques jours. Et puis en un an, il est adulte. Donc chez l'humain, voilà, on a une très très lente maturation des individus, et ça nécessite de se mettre tous ensemble pour en prendre soin. C'est ce que dit le fameux proverbe africain, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Voilà, alors je finis cette réflexion. Ça nous ramène aux animaux, pourquoi ? Parce que le fait qu'on soit ouvert à d'autres petits êtres pour en prendre soin, eh bien, il y a des êtres non humains qui se sont introduits dans cette brèche, qui en ont profité, et nous ont fait les yeux doux. Des bébés chiots, c'est des louveteaux à l'origine, mais il y a aussi des bébés singes. À travers le monde, en fait, toutes les sociétés humaines adoptent des petits bébés, d'autres espèces en prennent soin, les traitent comme des enfants, en fait, véritablement. Il y a le fait que dans beaucoup de régions, des femmes les allaitent pour des petits mammifères, des oursons, des kangourous, des opossums, des marcassins. De très nombreux exemples sur tous les continents montrent que voilà, notre ouverture à l'adoption des bébés nous a également ouvert beaucoup plus largement que ça au monde vivant qui nous entoure. Donc c'est ça, les attachements.
Alors justement, dans la deuxième partie de l'ouvrage qui s'appelle « Le pacte domestique », vous avez donc restitué différents mythes d'origine de la domestication. Il y a les histoires où les espèces viennent d'elles-mêmes aux humains, les histoires où un humain se sacrifie, d'autres où c'est une divinité qui va faire le don, on va dire, des plantes, des animaux et de l'espace nourricier. Mais il y a aussi des récits occidentaux Et c'est là aussi où je voulais en venir. Ce pacte domestique, vous allez un peu en parler. Et comment il est un peu recouvert par des récits dominants en Occident qui ne voient pas cette réciprocité du pacte.
Oui, bon, finalement, c'est une question massive pour qui s'intéresse à l'évolution des sociétés humaines et l'évolution de la planète. Comment est-ce qu'on en est arrivé à vivre aujourd'hui dans des écosystèmes dans lesquels, au niveau rien que de la biomasse, on est dans une surdomination des animaux domestiques et des humains. Aujourd'hui, les animaux sauvages, pour ce qui est des mammifères, représentent une petite part à côté rien que de nos bovins ou de nos volailles. Donc il y a eu un bouleversement fondamental du système Terre et de la biosphère lié à la domestication. Donc c'est capital comme question. C'est lié aux attachements, mais c'est une forme particulière d'attachement, la domestication. Est-ce qu'on peut même parler d'attachement? Est-ce que ce n'est pas plutôt une forme de domination, d'asservissement des espèces vivantes? C'est comme ça que c'est perçu dans beaucoup d'interprétations théoriques en Occident qui mettent la domestication au cœur des évolutions des sociétés humaines. Pensez à Jean-Jacques Rousseau, pour qui l'avènement de la domination parmi les humains, des inégalités, des hiérarchies, de l'esclavage, c'est une résultante d'un changement de rapport à la nature avec l'avènement de l'agriculture. Pour lui, l'esclavage imposé par des humains à d'autres humains, ça a pris pour modèle le traitement par les humains des animaux, des bœufs, qui ont fait subir un joug pour les faire travailler. Donc, et ça reste très prégnant, cette idée-là, cette vision-là, que les humains vivaient dans des relations harmonieuses, égalitaires, entre eux et avec leur environnement, tant qu'ils étaient chasseurs-cueilleurs, et il y aurait eu un grand saut dans l'inconnu, avec la domestication, l'humanité serait entrée dans des relations de domination sur la nature, et à l'intérieur même des sociétés humaines serait apparue la domination. C'est un peu notre mythe fondateur, en fait. On le voit répété hein, chez des théoriciens actuellement, récemment, depuis Jean-Jacques Rousseau, et même avant, en fait, c'est un peu le mythe de la chute de l'âge d'or, hein, et de la chute aussi, au sens religieux, la chute du paradis. Alors, on n'est pas les seuls, nous, à se poser ces questions-là, en fait, nous, les Occidentaux. beaucoup de populations, la plupart, à travers le monde, vivent en compagnie et dans la dépendance de plantes et d'animaux domestiques. Alors comment eux, ils répondent à cette question-là? Comment ils l'envisagent? Elle les préoccupe également. Il n'y a pas besoin d'avoir des archéologues pour s'intéresser aux origines de nos sociétés, aux origines de notre mode de vie. Alors ils y répondent par des mythologies qui peuvent se regrouper en trois grands pôles qui sont, comme vous l'avez évoqué, d'abord, les animaux sont venus par eux-mêmes. Alors ça, c'est par exemple le cas chez les peuples chez qui j'ai travaillé en Sibérie, pourquoi ils ont des rennes domestiques qui sont fondamentaux dans leur rapport au monde, puisque le renne fournit le lait, le moyen de transport, la viande quelquefois. Le renne est un ami, un compagnon et un moyen de subsistance dans la forêt boréale. Eh bien, il y a des mythes qui racontent qu'il y avait une dame dans un campement, le chasseur-cueilleur, qui allait uriner. Et puis, des rennes ont été intéressées, sont venues lâcher l'urine. Alors, elle a remarqué ça, ils étaient curieux, elle était curieuse aussi, elle est allée uriner un petit peu plus proche du campement. Et comme ça, de jour en jour, les rennes se sont rapprochées du campement. Et là, ils étaient finalement d'une relation déjà de familiarité, elle leur a proposé un pacte. Elle leur a dit, ben moi je vais vous donner du sel, de l'urine, et puis vous pourrez nous donner du lait, un moyen de transport. Ça c'est un mythe qui nous raconte l'origine du mode de vie d'une société qui est devenue des éleveurs de rennes, sa façon dont ils le conçoivent, sous le modèle donc d'un pacte, avec un échange de bons procédés, avec des intérêts qui sont partagés. Il est nécessaire pour cette population que chacun y trouve son compte. En fait, c'est pas rare comme histoire. Vous avez la même histoire chez les Peuls. Comment ils expliquent le fait qu'ils vivent avec des vaches Eh bien, ce sont les vaches qui ont été attirées par les campements, par la présence des foyers, des humains, qui émettent de la fumée et qui chassaient les moustiques et qui effrayaient les prédateurs. Donc elles sont venues par choix, parce qu'elles ont trouvé là de la sécurité. Vous avez de nombreuses histoires de ce type à travers le monde qui nous montrent le fait que les plantes ou les animaux sont des agents du processus de domestication. C'est très différent du modèle occidental dans lequel c'est l'humain qui a changé d'attitude à un moment, qui a pris le contrôle, et donc qui est agent face à des êtres qui sont passifs. Et d'ailleurs, on a cette expression dans les langues occidentales avec le verbe « domestiquer ». L'homme a domestiqué le chien, mais alors en quel millénaire ? L'homme a domestiqué la chèvre, mais en quelle région ? Est-ce que c'est en Iran ou est-ce que c'est en Turquie ? Voilà la façon dont on se pose les questions généralement, sans se rendre compte que rien qu'en posant la question de cette façon-là, avec le verbe domestiquer, on a déjà un schéma explicatif tout fait, avant même d'avoir interrogé les choses. Or, le verbe domestiquer, il se répand en France au 19e siècle. La notion de domestication se répand en France récemment sous l'influence de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Ça veut dire que pendant des millénaires, les humains ont vécu avec des plantes et des animaux domestiques sans penser qu'ils les avaient domestiqués. C'est très important d'en prendre conscience. Parce que pour nous, ça paraît totalement évident que ce sont les humains qui ont domestiqué, c'est-à-dire asservi, mis à leur usage, les plantes et les animaux. Et en réalité, on peut tout à fait vivre, et la plupart des humains, les sociétés humaines ont vécu avec des plantes et des animaux domestiques sans penser qu'ils les avaient asservis. Donc comment ils pensaient ça ? Eh bien que c'est un pacte, ça a des implications morales que vous imaginez bien immédiatement. S'il y a un pacte dans lequel se sont engagés les humains et les reines, il faut le respecter. Et donc les humains ont des obligations morales à l'égard des reines chez les Touva, les Tojou, chez qui j'ai travaillé, puisque les reines peuvent, si les humains rompent ce pacte, eh bien, les reines aussi vont rompre le pacte. Oui. Donc, autre grand type d'explication, c'est qu'un humain s'est sacrifié, ou un ancêtre fondateur. Sa famille dépérissait, ses enfants n'avaient plus à manger. Il a dit « Amenez-moi dans la forêt, coupez-moi en morceaux et vous verrez ». Et c'est ainsi que sont apparus dans les mythes des Amérindiens le maïs, les courges et d'autres aliments, sources de nourriture. Mais c'est aussi un mythe qu'on trouve à propos de l'origine des bovins mitans en Asie du Sud-Est. C'est une forme de mythe d'origine du renne en Sibérie, une autre variante chez les évinques. Là, c'est l'ours qui s'est sacrifié, qui a dit à une jeune femme « Tu peux me tuer, tu me couperas en morceaux, et telle partie, mon estomac va devenir la selle, mes intestins vont devenir des rennes, etc. » Donc c'est à partir du corps d'un être qui, par générosité, s'est sacrifié que les humains ont pu gagner leur nourriture. Donc là, implication morale, reconnaissance, endettement des humains face à des fondateurs, face à leur milieu vivant. Et puis, troisième type, c'est plutôt des divinités ou des esprits qui ont offert aux humains, généreusement, le maïs ou le blé dans un acte de générosité. Et donc là, à nouveau, endettement, nécessité pour les humains d'entretenir une relation de gratitude à l'égard des céréales et des esprits des céréales ou des divinités ou de dieux dans des rituels agraires que l'on retrouve dans toutes les sociétés paysannes. Donc dans toutes ces, finalement, ces mythes traditionnels, on voit que l'humain n'est jamais le seul agent. Il est un agent parmi d'autres, avec des espèces domestiques elles-mêmes, mais aussi des divinités, des êtres, des puissances invisibles du cosmos.
Et donc il y a ce grand tournant des Lumières où on retourne à des récits anthropocentrés, donc où il n'est question que de l'homme démiurge qui domestique le monde et qui n'a de compte à rendre qu'à d'autres humains ou qu'à lui-même. Alors comment ça se passe ce grand tournant, qu'est-ce que ça peut générer en termes déjà d'idéologie, mais aussi de tout simplement d'organisation sociale, puisque c'est quand même aussi le cœur de l'ouvrage, c'est une explication de l'organisation sociale, de l'origine des structures sociales dans lesquelles nous sommes pris. Alors qu'est-ce qui se passe? Je pensais surtout à cette histoire des réseaux dans cette allée et aussi comment
ça se... Alors, c'est deux questions séparées. Déjà, la question de l'origine de notre mythe moderne de la domestication. Parce que constatant, voilà, d'abord, mon expérience de terrain, c'est que chez les Touva, Tojou, c'est pas du tout les mêmes histoires qu'on raconte sur l'origine des animaux domestiques. Ensuite, je fais de la comparaison à travers le monde et on voit que les Touva ne sont pas du tout une exception et que finalement, c'est nous l'exception des Occidentaux. Et donc, la question, nécessairement, c'est... Mais d'où vient notre mythologie à nous? À quand remonte-t-elle? Est-ce que c'est le christianisme? Non, puisque dans les récits bibliques et dans les interprétations, les cosmologies paysannes chrétiennes, les animaux domestiques ne sont pas créés par les humains, ils sont créés par Dieu dès le commencement. Donc on a ces visions, ces tableaux, ces enluminures très très déstabilisantes dans lesquelles nous voyons Dieu qui crée dès l'origine différentes races de chiens qui créent dès l'origine des moutons blancs, donc des animaux domestiques créés dès l'origine du monde tel quel et non pas du tout pris en main, façonnés par les humains. Donc à partir de quand naît cette idée que l'humain a façonné des espèces particulières? Eh bien elle se développe, elle est théorisée vraiment par Buffon au XVIIIe siècle dans son Histoire naturelle où il affirme par exemple à propos du blé que le blé, c'est une amélioration faite par les humains à partir de l'ivraie, probablement, de plantes qui ressemblent au blé et qui n'en sont pas parce qu'elles sont très inférieures. Donc là, on a un renversement par rapport aux cosmologies paysannes. Dans les cosmologies paysannes, Dieu a créé le blé avec du grain de la racine de la terre jusqu'au sommet de l'épi. C'est dans des mythes français. Et puis, les humains n'ont pas justement ce qu'on évoquait, cette attitude de gratitude et de respect par rapport à ce don divin qu'est le blé. Il y avait une telle abondance du blé, et donc de la farine et du pain, que les gens torchaient leurs enfants avec du pain. Donc, sacrilège qui a été puni par Dieu, qui, avec ses doigts, s'est mis à tirer sur le blé, faire tomber tous les grains, jusqu'à ce qu'un ange l'arrête et lui dise « Non, garde un peu de grain pour les pauvres et les chiens. »